Les colloques du Collège de France.
Je vais rapidement vous introduire et puis je vais changer de place parce que je veux voir tout ce que vous allez nous projeter. C'est pas pour vous abandonner, Carlo. Donc, Carlo Ossola, qui est le magicien de la journée. Mais encore merci de nous accueillir et d'avoir tressé ces rencontres qui se répondent tellement bien, hein, qui font que là, nous sommes en train de tresser tout un chemin. Alors, je vais pas dire grand-chose, mais je voudrais quand même dire que vous êtes aussi l'homme des bibliothèques, l'homme de la bibliothèque, et que ces images de Michel Butor, presque ensevelies derrière ses livres, vous pouvez trouver la même chose, notamment par rapport à votre dernier ouvrage, « Entrer sans frapper », n'est-ce pas, où vous nous faites reparcourir vos lectures et tous les livres qui vous ont accompagnés. Vous avez vraiment été le compagnon de Michel Butor sur des années et des pays et des lieux, notamment la Suisse, l'Italie, la France. Je ne citerai qu'une chose, c'est un petit livre, mais il est tellement beau, c'est « Conversations avec le temps » que vous avez eu avec Michel Butor, qui a été publié d'abord à La Différence et puis qui vient de reparaître il n'y a pas très longtemps, toujours chez Colette Lambrix aux éditions du Canoë. Je ne vais pas entrer dans la bibliographie de Carlo Ossola, son rayonnement que tout le monde connaît. Encore merci et je reviens tout à l'heure.
Merci beaucoup. Le titre est évidemment, encore une fois, une citation de Michel Butor, et c'est un peu le sens que je vais donner à cet exposé en essayant de justifier ce champ de tension que nous verrons s'esquisser à l'intérieur de ce vers. Rien n'est plus rassurant, euphorique et, je dirais, satisfaisant que la contemplation des œuvres complètes de Michel Butor, dans leur lumineuse clarté, dans leur blanche, bien sûr, je le dis à la lettre, blanche pureté, elle se situe à côté des 31 volumes, on vient de l'évoquer, des œuvres complètes de Bossuet que j'avais face à moi dans mon ancien bureau, m'offrant les deux dans leur généreuse abondance l'univers tout entier paisiblement recueilli. J'en ai parlé dans la section « Quête et plénitude » de mon dernier ouvrage et je ne reviens sur ce sujet que pour remercier encore une fois Mireille Karl-Gruber pour souligner que ce magnifique univers de Michel Butor et de sa méthode pour le répertorier pourrait se résumer, comme je l'ai dit ce matin, dans le chapitre final de Degré, mais je le cite encore pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. « Ton oncle Pierre range dans sa serviette son cahier la description du monde par Marco Polo et les essais de Montaigne. » Tous, vous vous levez, vous prenez vos manteaux, et là, après, il y a un départ vers le monde. Michel Butor a réuni dans sa création la curiosité inépuisable de Marco Polo du XXe siècle et la sagesse aiguë de Montaigne. Je dirais aussi, on vient de l'évoquer, la distance libre. Montaigne, auquel il a du reste consacré un superbe essai. Je voudrais aujourd'hui faire avec vous le chemin envers. En dépliant cette grande œuvre, Mireille l'a évoqué ce matin, en ramenant les chapitres à leur origine, aux occasions de leur naissance, au contexte d'où elles ont été convoquées à une unité nécessaire et pourtant orpheline du bruit du voisinage avec qui l'auteur était à l'écoute et en dialogue. Le problème, vous l'avez évoqué, c'est toujours le fait que le champ diachronique qui est celui de la lecture doit se croiser avec le champ synchronique du moment où les œuvres ont été différemment disposées avec les compagnons de route. Alors, je prendrai ici, à titre d'exemple, un seul texte, à savoir, vous voyez déjà les proportions entre ce tome 12, c'est-à-dire Poésie 3 des œuvres de Michel Butor. Dans ce tome, l'exemple que je prendrai ne tient que deux pages. Deux pages sur un millier de pages, 1200. Et donc, il est là conservé et en même temps un peu effacé. Nécessairement, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a que deux pages. Mais l'origine de ce texte est là. Un texte magnifique dont je vous parlerai un peu. Et ce texte s'appelle « Les sept dormants », publié chez Actes Sud en 2003, et qui est en réalité un ouvrage de collaboration entre plusieurs artistes. Voilà déjà ce champ de tension qui se fait jour. Le titre, « Les sept dormants », et on revient nécessairement à l'Orient, c'est pourquoi on a un peu enchaîné, revient à la légende célébrée, je souligne, dans toute la Méditerranée, aussi bien dans le monde byzantin qu'arabe et romain, des sept dormants d'Éphèse. Quel est le contexte? Eh bien, le contexte est un, je cite le texte le plus développé, c'est-à-dire le texte de la légende dorée, donc un texte qui a marqué tout le Moyen-Âge, et ce texte de Jacopo da Varazze, en latin, a donné une très vaste autorité à ce récit, qui nous dit que sous Trajan d'Es, c'est-à-dire au IIIe siècle après Jésus-Christ et empereur de 249 à 251, les persécutions antichrétiennes reprirent, et c'est à ce moment-là que sept jeunes gens d'Éphèse, fonctionnaires de la cour, ne voulant pas sacrifier aux idoles, distribuèrent leurs biens aux pauvres et se retirèrent pour prier et jeûner sur le mont Cédion. Chaque matin, l'un d'eux, déguisé en mendiant, je résume ici la légende dorée, allait à la ville chercher du pain. Un jour, Malchus, donc ce jeune, apprit que Dès, voyant leur résistance obstinée, voulait les arrêter. Et il fit d'ailleurs murer, enfin, il fit mettre des pierres contre l'entrée de la grotte où il était réfugié. Mais par la volonté divine, il s'était déjà enfermé dans leur sommeil. Des siècles plus tard, à l'époque de Théodose, donc deux siècles plus tard, empereur de 408 à sa mort, un propriétaire terrien d'Éphèse, voulant construire des écuries sur le mont Cédion, fit abattre le mur qui bloquait la grotte. Les dormants se réveillèrent, se saluèrent comme la veille, inquiets d'être persécutés. Malchus, comme d'habitude, prit une pièce pour acheter du pain en ville. Arrivé au marché, il trouva partout des signes de la croix à tout coin, et il vit néanmoins refuser la pièce qu'il avait donnée comme périmée depuis des siècles. Il chercha alors dans la foule des visages familiers pour essayer d'avoir la bonne pièce et ne trouva que des inconnus. Traduit en justice pour fraude, il assura avoir vu Dès la veille et que les autres compagnons de la grotte pouvaient également en témoigner. Et il fut ainsi que l'évêque et le proconsul, ayant pris connaissance du miracle, informèrent Théodose, qui se rendit à Constantinople, de Constantinople à Éphèse, monta à la grotte, se prosterna en pleurant et en se réjouissant. Je cite, « En te voyant, c'est comme si je voyais le Seigneur qui ressuscite Lazare. » Alors, les sept dormants, ayant à leur tour compris qu'il s'agissait d'un miracle, demandent d'être remis dans leur grotte pour si possible, dormir jusqu'au jugement dernier. Alors là, on peut avoir toutes sortes de lectures. Celle que je préfère, c'est que, ayant vu le désastre d'un monde qui n'était pas celui que eux ils désiraient, ils ont préféré se rendormir. Bon, c'est une lecture très pessimiste. Eh bien, jusqu'ici, la légende qui a inspiré de nombreux écrivains contemporains. Mais si j'évoque Michel Butor, c'est parce que dans les œuvres complètes, nous avons une distribution scénique très différente. Le lait des sept dormants, donc qui tient deux pages, se trouvant maintenant dans le volume 12, posé 3 des œuvres complètes, se situe au cœur de la section 1001 livres d'artistes. Nous sommes dans un panorama d'art contemporain, puisque ce bref poème est consacré à Rachid Koraïchi, artiste plasticien, calligraphe, dessinateur, graveur, qui a fait un travail admirable. Et nous verrons dans un instant les enluminures. Mais restons aux œuvres complètes. Ce poème est entouré par d'autres hommages à des artistes amis. Dans la page qui précède, nous trouvons Graziella Borghesi, italienne. Le titre du poème de Michel Butor est « L'école des méduses ». Et dans la page qui suit, nous trouvons Mylène Besson, qui va conclure notre journée, évoquée par le poème « Je dépose mon cœur à vos pieds ». Donc un cercle d'amitié se manifeste, une cohérence poétique et biographique qui nous rassure. Mais cela pourrait aussi être l'effet de l'école des méduses, donc le poème qui est consacré à Graziella Borghesi, qui nous dit dans une strophe, je cite Michel Butor, « Quelques-uns sont connus comme des miroirs. Ils se renvoient les images des autres. » Alors, vous voyez, cette citation nous inquiète un peu. Alors, faisons le chemin à rebours en remontant vers l'origine, donc vers la disposition du premier recueil. À l'origine, donc, il y a cet autre livre que je viens de citer, c'est-à-dire « Les sept dormants d'Éphèse ». Eh bien, alors, si nous voyons maintenant quelle est la disposition de ce livre, eh bien, vous voyez que ces sept dormants ont suscité, d'abord dans le monde de Byzance, surtout sous Basile II, qui commanda une illustration complète enluminée du Ménologe, c'est-à-dire les saints qu'on célèbre tous les jours pendant une année, d'où cette image superbe des sept dormants est tirée. Et puis il y a un autre volume persan de la même époque qui est donc à côté. Là, c'est l'exemplaire persan, merveilleux. Quelle est la différence entre la tradition byzantine et la tradition persane? C'est que dans le monde arabe, il y a toujours un petit chien en bas, parce que ça vient de la sourate 18, où cet exemple de la légende dorée est conservé parfaitement. Là, il y a une concordance entre les traditions chrétiennes et les traditions coraniques. Alors, c'est donc un élément tout à fait réconfortant. Et puis, nous avons encore un autre exemple merveilleux, les sept dormants. Le reste d'une immense fresque dans la cathédrale de Crema, en Italie, tout a été perdu, sauf cela, sauf ces sept visages des jeunes dormants d'Éphèse. Donc nous avons une géographie méditerranéenne complète des différentes religions. Ajoutons qu'il y a encore à Marseille une sculpture des sept dormants, et surtout en Bretagne. Donc vous voyez que c'est une légende qui s'est enracinée profondément, une légende de temps aboli, si vous voulez, qui a marqué profondément la tradition occidentale. Alors, dans ce livre, nous avons, dans ce livre-là, avec un format très beau, des pages illustrées magnifiques, c'est un hommage fait à ce peintre algérien. Je vous montre simplement, parce que je ne peux pas le faire circuler. Et voilà, là, c'est ce que vous voyez ici, les sept dormants, voilà. Et après quelques pages, et tout est fait bien sûr à la main, voilà, je laisse cette image-là pour vous montrer la richesse de cette illustration. C'est un livre d'une très grande beauté qui réunit autour des fines et mouvantes gravures de Rachid Koraïchi les textes, voilà, la disposition différente de John Berger, Michel Butor, Hélène Cixous, Sylvie Germain, Nancy Houston, Alberto Manguel et Leila Sebbar. Pour commémorer qui? Les sept dormants, bien sûr, mais sous titre, sept livres en hommage aux sept moines de Tibrine. Vous voyez que le contexte change complètement. C'est un épicédium consacré à chacun des sept moines trappistes tués à Tibrine le 21 mai 1996, un intense et profond chant funèbre et un hommage des arts à ce qui reste humain dans l'homme au-delà des crimes et de l'infamie. Michel Butor a contribué, je dirais, avec une grande humilité parce qu'il suit dans ses strophes le texte de la légende dorée. Mais il ajoute, Mireille l'a dit ce matin, il est difficile de retrouver les citations implicites de Michel Butor. On trouve bien sûr facilement les citations explicites, comme quand il cite Montaigne, mais les citations implicites sont plus difficiles à trouver. Eh bien, il commence par une scène qui n'est pas dans la légende dorée, c'est-à-dire une scène terrible d'abomination qui ne se réfère pas aux sept dormants, mais plutôt aux malédictions de Yahvé dans l'Ancien Testament et en même temps aux pratiques politiques des dictatures du XXe et ajoutons du XXIe siècle. Je le cite, ça commence comme ça et c'est très très fort. Il y a déjà bien des siècles dans la grande ville d'Éphèse, en Asie mineure, elle grondait d'une effroyable persécution par fanatisme et par terreur. Les amis s'entre-dénonçaient, les pères égorgeaient leurs fils, les filles devaient fuir leur mère. Alors c'est une insertion qui ne fait pas partie de la tradition des sept dormants. Les quelques vers ajoutés à la légende par Butor remontent à des sources bibliques d'un prophétisme radical et terriblement actuel, voire surtout Ézéchiel, au chapitre 5, je le cite, « J'agirai chez toi comme jamais je n'ai agi et comme je n'agirai plus jamais à cause de toutes tes abominations. C'est pourquoi des pères dévoreront leurs enfants au milieu de toi, c'est-à-dire au milieu d'Israël, et des enfants dévoreront leurs pères. Je ferai justice de toi et je te disperserai à tout le vent tout ce qui reste de toi. » Donc c'est à la lettre, les pères égorgeaient leurs fils et les filles devaient fuir leur mère. Mais on pourrait dire, bon, là c'est l'Ancien Testament, bon, nous on est héritiers du Nouveau, mais il y a encore des traces. Si vous prenez Luc 12, ben, vous trouvez la même situation. Pensez-vous que je suis apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2, 2 contre 3. On sera divisé père contre fils, fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère. Belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. Il s'agit bien évidemment d'une émotion collective pour ce massacre des moines qui était complètement paisible de Tibrine. Et nous trouvons des vers semblables dans l'autre texte à côté, parce que les textes parlent là aussi, c'est-à-dire les vers de Nancy Houston. « Une fois notre main sur le front fiévreux de l'enfant malade, nos chants pour les vieillards morts, nos prières pour la famille égorgée, les femmes violées, les espoirs étouffés. » Vous voyez que, tout simplement avec ce peu de citations, c'est comme si nous nous trouvions face à deux textes complètement différents du fait que la disposition est différente. Là, c'est une commémoration des morts de Tibrine. Ici, bien sûr, c'est presque une sorte de pléiade d'amis qui se retrouvent dans leurs œuvres réciproques. Revenons à la légende. Essayer de trouver un chemin, à cause donc de ces troubles et de ces persécutions, les 7 jeunes, pour conserver leur foi, leur amitié, leur sérénité, partent à la montagne et Butor nous dit, décidèrent de partager, après leur journée de travail, le pain qu'ils, donc Malchus, l'un des 7, avaient remonté, puis s'installèrent pour dormir sans troubler leur sérénité. Donc la scène que Butor nous décrit est une scène de partage évangélique cette fois. Ils partageaient, après leur journée de travail, le pain qu'ils avaient eux-mêmes cherché au marché. Et le reste se passe exactement comme dans la légende dorée, je cite encore une strophe, « Ils s'éveillèrent en pensant n'avoir sommeillé qu'une nuit, car le temps n'avait rien changé à leurs traits, mais ils se sentaient affamés, et donc leur intendant descendit pour chercher du pain dans une ville transformée. » La suite du poème est très très fidèle à la légende dorée. On découvrit dans la caverne non point monnaie, mais la jouvence dans l'accueil de ces réveillés qui regardaient tout ébahis le monde métaformosé, puis rattrapés par la fatigue, sourire et se rendormir, léguant le trésor de leur vie. Voilà le titre. Ce vers n'existe absolument pas ailleurs. J'ai cherché les versions possibles de la légende dorée, bien sûr dans toutes les langues, mais ce passage n'existe que dans les vers de Michel Butor. Vous voyez la force de ce message. Je le cite encore une fois. « Puis rattraper par la fatigue, sourire et se rendormir, léguant le trésor de leur vie. » Léguant à quoi? À qui? D'abord, j'imagine, pour le jugement dernier, pour une offrande ultime, pour ceux qui voudraient venir les voir pendant leur sommeil, donc constater, témoigner du miracle, ou simplement pour ne rien faire de mauvais pendant les siècles à venir. Mieux dormir que mal faire. Donc, je crois que cet élément nous pose un problème sérieux d'interprétation. Il faudrait à chaque fois, c'est l'obligation à laquelle Michel Butor nous appelle, à chaque fois lire d'une manière synchronique quand il a écrit pourquoi, pour qui, avec qui. Nous l'avons vu un peu ce matin pour les livres d'artistes. Mais à chaque fois, Michel Butor nous oblige à ce travail. Et après aussi, voir le côté diachronique qui nous est légué par les œuvres complètes dans deux siècles, imaginons. Ces livres, bon, j'espère que ça existera encore, mais ce sera difficile de les lier. Et donc, nous aurons surtout les œuvres complètes, et ceux qui liront trouveront certainement un cercle d'artistes, d'amis, etc. Est-ce qu'ils pourront trouver, il faudra avoir une note en bas de page disant aussi que la chose est bien plus tragique. Mais Michel Butor n'a jamais écarté le côté tragique de la vie. Simplement, je crois qu'il pensait aussi que l'art a le devoir d'être le grand médecin des malheurs de la vie. Donc, il a su aussi recréer, et Mireille également, dans ce recueil de 1001 aventures des arts, une idée plus belle. Je dirais que, et je vais vers la fin, ce moment final, léguant le trésor de leur vie, retrouve un passage de l'une des scènes de l'avant-goût qui nous montre qu'il ne s'agit pas d'un épuisement dans un éternel silence, mais au contraire, ce recueillement silencieux peut devenir, je cite Butor, une strophe de paradis. Et je le cite. Voici le moment où l'on est bien forcé de s'arrêter, perdu dans l'émerveillement ou l'effroi. Il suffit d'un dernier quart de tour pour que le renversement s'accomplisse et que l'on se mette à couler dans les artères du pays des morts, tournant autour des citadelles profondes où sont enfermés nos ancêtres, tandis que ce sont les villages qui deviennent des astres, pas des désastres, des astres, et que l'on se souvient de la moindre fenêtre comme dominant sur une strophe de paradis. Dans ce monde renversé, la moindre fenêtre donne sur une strophe de paradis. J'avais toute une partie que je vais laisser parce qu'il y a un autre grand artiste de ce siècle qui s'est penché sur cette réalité des sept dormants et c'est Dany Lokis. Dany Lokis est un contemporain qui vient du monde de la Yougoslavie avant la dissolution de ce pays, donc un monde slave, et qui a écrit le premier des récits de son encyclopédie des morts. Ce premier récit est précisément consacré à la légende des dormants. Je ne citerai que le passage final de cette espèce de découverte de l'impossibilité de distinguer le moment où ces sept sont portés en ville. Est-ce que c'est un rêve que je fais parce que je suis désormais presque à la fin? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que les autres me rêvent? C'est un peu borghésien, là. Et que moi, étant rêvé, je prends un ton d'existence plus ou moins fictive. Il termine en disant « L'obscurité était épaisse, le silence était le silence de la tombe de l'éternité. On n'entendait que le suintement de l'eau, le long des voûtes invisibles, le brassage de l'éternité dans la clepsydre du temps. » Le brassage de l'éternité dans la clepsydre du temps. Ah, qui saurait séparer le rêve de la réalité, le jour de la nuit, la nuit de l'aube. Donc vous voyez que maintenant, c'est un champ très large qui s'est ouvert. Je ne cite pas d'autres auteurs, je reste à Michel Butor, mais c'est un champ extrêmement riche et avec ses inquiétudes, ses consolations, ses renversements. Mais ceci nous porte aussi à penser à autre chose. Le texte magnifique de Michel Butor n'est pas un texte isolé. Si nous revenons en arrière, ben on trouve quelques fragments, en partie acceptés par Port-Royal, en partie refusés, de Pascal, où il pose précisément le même problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il arrive si nous, en revant ensemble, après, nous disions les uns les autres, qu'est-ce que tu as rêvé? Où serait-elle la réalité? Voilà, je vous cite juste un passage. Et qui doute que si on rêvait en compagnie et que par hasard les sons s'accordassent, ce qui est assez ordinaire, et qu'on veillât en solitude, on ne crût les choses renversées? Si je pense, moi seul, que là, nous sommes éveillés et que tout le reste de l'assistance nous disait ben, « nous avons fait un magnifique rêve, nous étions sur le mont Célion avec ces jeunes d'Éphèse qui se réveillent et qui trouvent que tout est devenu chrétien ben, », quelle serait la réalité si tout le monde nous disait cette chose-là? Alors, je reviens et je conclue. D'abord, la méthode de Michel Butor. C'est la première fois que je trouve chez des écrivains contemporains ce passage extrêmement gênant, il faut bien le dire, de l'Ancien Testament, où on dit carrément, ben voilà, je maudis mon peuple et ma punition sera qu'il s'entretue, père et fils, mère et fille, etc. Ce qui n'existe aucune part dans la tradition, mais qui témoigne de notre présent. La force de la poésie est témoignée du présent, pas seulement du moment où elle était écrite. Non, ça c'est déjà un élément d'une force immense, mais aussi le final. Et ça c'est la grande leçon morale, éthique, de Michel Butor. Il n'est pas le prophète de l'Ancien Testament. Il ne se contente pas d'évoquer ce type de passage. Il termine en disant, en léguant le trésor de leur vie. Il termine par un don, contre toute évidence, pour ainsi dire, ou contre les strophes précédentes. Donc, en mettant ensemble Michel Butor, Dany Lorkis, et bien sûr, derrière eux, Pascal, je dirais que l'apologue des Sept Dormants va au-delà de l'abolition ou de la suspension du temps racontée dans la légende dorée. Ressuscités un instant, ils demandèrent la grâce de revenir à la terre jusqu'au jour du jugement. Ils avaient déjà vu trop de persécutions, de misères, d'abominations et peut-être aussi de cultes triomphants et désormais routiniers, sans l'ardeur intime qui les avait, eux, embrasés quand ils étaient persécutés. Finalement, les morts et les vivants ont tous besoin d'un peu de répit. Sur les courbés, les opprimés, comme sur les effacés et les désemparés, veillent en silence à Crème et sur notre terre féroce, les sept dormants d'Éphèse, comme Michel Butor les a évoqués. Ce rêve nous accompagne et ce rêve, si nous le faisons ensemble, sera peut-être réalité. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.